Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants: la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, l'électronisme. L'importance prise par le numérique dans la réalisation des démarches administratives et la recherche d'emploi est le facteur le plus visible des dégâts de l'électronisme. Il y a, en Occitanie comme partout en France, des zones blanches, des territoires où la connexion Internet est limitée. Certains jeunes ne disposent que d'un matériel informatique peu performant. La fracture va s'approfondissant en termes de numérique, de mobilité, de maîtrise des langues vivantes, entre les jeunes des métropoles qui maîtrisent de plus en plus les attendus et les autres, ceux des campagnes. Le numérique présente la particularité d'être une compétence qui n'a pas été transférée. L'accessibilité numérique est enfin la condition de l'accès des citoyens à d'autres droits et libertés. Depuis quelques mois, dans la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, des ateliers numériques sont proposés à tous ceux qui le souhaitent. Le conseiller numérique de la commune, Cyril Arnoux, propose des rencontres sous forme d'ateliers pour progresser dans la prise en main d'un équipement informatique, naviguer sur le web, mieux comprendre le vocabulaire du numérique, les bonnes pratiques de sécurité sur le web ou utiliser des services en ligne. Des ordinateurs sont mis à disposition des participants. Cyril Arnoux, expert du digital et de la communication, ancien journaliste, relève le défi. Soutenir les usages quotidiens du numérique et permettre plus d'autonomie pour faire face à ce qu'il ne veut pas nommer l'électronisme, mais plutôt l'inhabilité numérique.
Cyril Arnoux, aujourd'hui médiateur numérique et chef de projet, conseiller numérique pour la ville de Saint-Hippolyte-du-Fort. Mon parcours est un petit peu singulier puisque je m'inscris dans un parcours de journalisme. Donc j'ai fait une école, le CFPJ, j'ai été journaliste ici dans l'Hérault il y a 30 ans maintenant, ça fait dur de dire ça, dans les locaux de Radio Pays d'Hérault. Puis j'ai fait mes classes après à Radio France, dans le réseau des locales, RMC. Et puis j'ai eu une offre pour partir au Maroc pour travailler pour un groupe franco-marocain. Et donc là, je suis monté sur l'actualité internationale. J'y suis resté 20 ans. J'étais directeur d'une rédaction de 40 journalistes. Je faisais radio et télévision. Et je me suis réinventé en revenant ici dans le Languedoc-Roussillon. Mais j'ai voulu finalement aller sur d'autres formes d'écriture. Donc je suis reparti à la Sorbonne sur les métiers de l'écrivain public, on va dire conseil en écriture. Donc là, j'ai eu un diplôme là-dessus à la Sorbonne. Et en fait, en montant mes premières permanences d'écrivain public, alors c'était du côté du Vigan à l'époque, en 2016-2017, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir pour l'écrit, certes, mais en fait, l'écrit, c'était aussi beaucoup aujourd'hui un rapport avec le numérique. Il faut que j'écrive ça, mais... En fait, je ne suis pas très habile avec cet ordinateur. Ma boîte mail, je ne sais pas, je ne comprends rien. Voilà. Et du coup, j'ai touché cette réalité du doigt. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est des espèces d'écrivains publics 2.0, en fait. pour aider à accompagner toutes ces personnes. Et j'avais des profils très différents à l'époque, hein, sur le Vigan. On pouvait avoir un chef d'entreprise qui voulait monter un dossier pour avoir des subs avec une collectivité sur un projet, une personne qui était en emploi mais qui voulait changer, mais voilà. Donc une personne qui était un petit peu larguée au minima sociaux et qui était complètement, voilà. Donc moi je jouxtais l'espace public numérique, mais qui était plutôt à l'époque un espace où on venait et on avait son ordi et voilà. Mais pour les personnes qui étaient dans l'inhabilité numérique et pas dans l'électronisme, c'est nos confrères canadiens qui parlent d'inhabilité numérique, j'aime bien ce terme. Donc pour ces personnes-là, c'est vrai qu'il y avait un petit peu un trou dans la raquette. Et je me suis dit, je ne peux pas monter sur le numérique décemment sans avoir un petit bagage. Donc, comme j'avais déjà postulé que le langage informatique était une nouvelle écriture à la Sorbonne, j'avais fait un petit exposé là-dessus. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne le code. Donc, j'ai fait un master communication et technologie numérique CELSA École des Mines d'Alès. Et là, donc, je suis rentré dans l'univers du web. Du HTML, du CSS, du numérique. Et finalement, sorti de là, j'ai eu des opportunités pour travailler dans la communication digitale, mais j'avais toujours en tête ça, le fait de pouvoir faire des actions pour des personnes. Donc j'ai commencé à faire ça dans le cadre associatif. Et puis un jour est arrivé ce dispositif conseiller numérique. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être recruté dans la ville dans laquelle je réside. Et puis, de trouver en face de moi des élus qui ont été ouverts aussi à une vision de projet, à construire quelque chose sur le long terme. Parce que c'est bien souvent l'écueil de ce genre de dispositif étatique où, finalement, on monte sur un dispositif, on le fait un an ou deux ans, l'État finance, puis quand l'État finance plus, ça s'arrête, ça disparaît, voilà. Et là, ici, il y a une volonté de l'inscrire dans la pérennité. Et du coup, au bout d'un an, les choses se font à notre échelle. Mais ici, dans ce territoire rural, porte d'entrée du parc national des Cévennes, les élus étaient conscients de cette... fracture numérique, on en parle déjà depuis longtemps, depuis 20 ans, mais de cet électronisme, parce que certes, si au niveau national, on voit qu'il y a à peu près 17% dans les chiffres, 17 à 18% de personnes qui sont frappées d'électronisme, en fait, selon le rapport du Sénat de septembre 2020, je crois, on a quasiment 48% des Français qui sont dans le halo de l'électronisme. Grosso modo, on sait faire... fonctionner la bête, mais dès qu'il y a un petit changement, un bouton qui n'est plus à sa place ou un update de... Oh mince, je suis un petit peu paumé. Donc ça, c'est quasiment un Français sur deux aujourd'hui. Donc il y a un gros travail des personnes qui sont très très éloignées du numérique aux personnes qui se débrouillent de manière empirique parce qu'en fait, on leur a donné le bébé à un âge où ils étaient déjà adultes dans leur vie professionnelle. Ils se sont auto-formés de manière empirique et puis finalement, ils se débrouillent, quoi. Et parfois, de verbaliser les choses, de reprendre les bases ou d'amener des notions de vocabulaire, de faire des petits exercices. Le territoire ici, en fait, il a plusieurs singularités. Donc, on est en zone rurale. Donc, on a une population qui est démographiquement parlant plus vieillissante par rapport à des centres urbains où il y a une jeunesse qui est plus prégnante. Donc ici, on a des catégories socio-professionnelles aussi qui sont différentes des métropoles. Donc on a plus des catégories socio-professionnelles qui sont dans le monde de l'employé, des choses comme ça. Il y a un peu moins de CSP+, ici. Donc tout ça dessine en fait un portrait de territoire qui fait que plus de personnes âgées, plus de personnes peut-être qui ont eu des difficultés aussi dans leur parcours scolaire, des choses comme ça. Et puis il y a évidemment l'isolement, les questions de mobilité, enfin toutes les questions qui viennent se greffer autour de ça et qui en fait s'amalgament avec l'électronisme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un petit village où il y a 300 habitants et que le centre-bourg c'est Saint-Hippolyte-du-Fort et que vous devez déjà faire 10 km ou 12 km pour venir, ça change la donne, quoi. Qu'en ville, on monte dans un bus, on va dans le quartier d'à côté, on peut trouver facilement ce qu'on veut. Donc, toutes ces problématiques-là s'agglomèrent pour faire que l'électronisme aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très impactant pour nos territoires. Il y a la démarche de « je réponds à votre urgence, je ne sais pas faire ma démarche CAF, j'ai absolument besoin de mettre en place ça, sinon je suis à la rue ». Donc ça, c'est une démarche où on va répondre à l'urgence. Et ça, ça se passe dans la France Service, qui est juste à côté, où j'ai deux collègues qui sont là en permanence et qui reçoivent, sur rendez-vous ou de manière de flux, des gens qui sont comme ça dans l'incapacité de faire alors des démarches administratives. Voilà. Et puis, il y a l'autre côté de la pièce qui est la montée en compétences des personnes qui sont dans l'électronisme et qui ont la volonté d'apprendre et de au long cours et de partir d'un point A pour aller à un point Z. La commune avait déjà ce qu'on appelle une maison de service et d'accueil au public, une MSAP, qui fonctionnait sur une ouverture, je crois, d'une vingtaine d'heures par semaine, avec une seule agent. Et déjà, cette personne faisait le constat qu'il y avait... Donc la commune était informée de ces difficultés. Et avec le dispositif conseiller numérique et le dispositif France Service, j'ai apporté aussi une volonté de monter des projets, de faire des choses... Avec tel public, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, de voir l'électronisme aussi comme, j'allais dire, quelque chose de au long cours et qu'on allait construire aussi, ou voir co-construire avec les habitants. Mais pour ça, il fallait un minimum. Donc il fallait déjà poser un lieu. Donc ça nous a pris un an. Parce que ben, le lieu dans lequel vous êtes, en fait, c'est un bout des casernes qui ont été construites au 19e. Il n'y avait rien quoi, dans ces casernes, c'était dans le jus. Et donc, il a fallu faire des travaux. Ça, c'est la mairie qui a engagé les fonds. Il a fallu qu'on pense tout le reste, qu'on aille chercher aussi des subventions pour l'équipement. Enfin voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Et c'est vraiment la rencontre des deux. Donc la commune avait fait son constat et savait qu'il y avait... Et puis moi, j'ai aussi apporté une volonté et des idées de projet. Et c'est ça qui a matché, quoi. Alt numérique, c'est tout récent. Elle sert des publics de tous âges et de tous niveaux dans la progression sur l'habileté numérique. Donc je préfère parler d'inhabileté numérique plutôt que d'électronisme, parce que l'électronisme, ça renvoie toujours à illettrisme. Voilà. Et en fait, je reçois... Enfin, moi, j'ai rarement vu une personne, peut-être une, et encore, même instinctivement, elle savait déjà déchiffrer des lettres. Donc de dire que ce sont des illettrés du numérique, ça me dérange un peu. C'est pour ça que je préfère l'appellation canadienne inhabilité numérique, parce qu'en fait, il y a des personnes, voilà, elles ouvrent l'ordi, elles savent qu'il faut cliquer là. La souris, oui, je connais un peu, mais si je clique là, ah oui, c'est ça. Alors moi, j'ai mon bouton pour aller voir mes mails, là, ça, je sais. Mais dès qu'on change quelque chose, ça ne va plus. Donc là, on est plutôt dans l'inhabilité numérique, puisque la personne, c'est déjà, elle a vu un ordinateur, elle a vu qu'elle savait l'allumer, mais... pas plus, quoi. Donc, il y a ces publics-là qui sont éloignés, voire très éloignés. Et puis, il y a des publics qui sont, par exemple, des présidents d'associations, puisqu'on est aussi point d'accès au numérique associatif, PANA, ici, à la halte numérique. Bientôt, là, je vais monter un atelier pour des chefs d'entreprise, avec aussi quelqu'un de la CCI du Vigan. Donc, là, pareil, c'est pour leur montrer... un logiciel de gestion, enfin voilà. Donc en fait, on peut servir des publics très éloignés du numérique, des publics de salariés qui ont déjà des compétences. Par exemple, le mardi soir, je fais un atelier en dehors des heures, enfin de 18 à 20 heures pour permettre aux salariés de venir. Et là, ce sont des personnes qui ont déjà une pratique, mais qui veulent, par exemple, être plus à l'aise sur, je dis n'importe quoi, Excel, enfin ou un tableur quelconque. Donc on a ce public de salariés qui vient aussi. Et puis après, depuis maintenant, j'allais dire 2-3 ans, mais vraiment, on va dire là, depuis la guerre en Ukraine, ça devient vraiment prégnant en termes de communication institutionnelle. Mais ça fait déjà plusieurs années que les questions de cybersécurité aussi s'invitent dans le quotidien des Français. Les gens sont de plus en plus sollicités par des actions de phishing, enfin et autres, hameçonnage en français. Et là-dessus, bah, par exemple, là, le mois qui vient de passer, c'était le cybermois, tout le mois d'octobre. Donc moi, j'ai fait tous mes ateliers du mois d'octobre sur la cybersécurité, enfin la sécurité, les bonnes pratiques en matière de sécurité. Et en fait, on peut discuter de ça, même avec des gens qui n'ont pas de grande habileté numérique, mais déjà pour leur faire comprendre les bases et puis même quelques techniques, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale quand on parle du côté des hackers. Donc des techniques un petit peu qui jouent sur la psychologie humaine. Donc voilà, ce mois-ci là, qu'on vient de passer au mois d'octobre, j'ai fait tous mes ateliers là-dessus. Parce que bah, aujourd'hui, même si vous êtes à l'aise... moi, j'ai des enfants hein, qui ont 25 ans et je sais que, par exemple, ils sont très à l'aise avec le numérique, mais je sais que sur la sécurité, ils vont faire parfois ce qu'il ne faut pas. Donc, ce n'est pas une question parfois aussi d'inhabileté numérique, c'est une question de bonnes actions à poser. Comme quand on conduit une voiture, à un moment donné, on sait que si on ne s'arrête pas toujours au stop, à un moment donné, on va avoir un accident. Ben là, c'est pareil avec la sécurité informatique. À un moment donné, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Et si on ne le fait pas, ben un jour ou l'autre, on peut... Voilà, j'ai eu très récemment encore une personne qui est venue me voir. Sa vie était devenue un enfer parce que son smartphone envoyait 150 SMS par jour à des gens, qu'elle se faisait insulter en retour. Donc sa vie était devenue un enfer. C'était juste parce que cette personne en fait n'avait pas protégé son téléphone, que son téléphone avait été infecté et que le virus faisait des misères à son téléphone et sa vie devenait un enfer. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit geste, hein, on clique à un endroit où il faut pas, où on n'a pas mis une petite protection comme il faut, et tout de suite ça peut devenir un petit peu problématique. Le formateur, il s'est mis à jour, j'allais dire, tout le temps. Parce que déjà, il est allé à l'université pendant 2 ans, il a été à l'école des mines, donc il a été dans le langage informatique et tout ça. Et puis aujourd'hui, le formateur, il travaille au moins 1 heure par jour à être en veille permanente. Donc moi, je suis très branché sur la cybersécurité. Donc, c'est des questions qui me plaisent bien. Donc, j'aime bien aller tester la sécurité des sites web, des choses comme ça. Et en 2023, normalement, je devrais toucher du renfort. Et une personne viendrait m'épauler pour monter en puissance. Parce qu'aujourd'hui, on fait à peu près 6 ateliers collectifs par semaine, plus tous les accompagnements individuels autour. Donc là, je suis en moyenne à 40 accompagnements par semaine. Et pour monter en puissance, là, j'ai des ateliers qui viennent avec des seniors parce qu'on a monté un partenariat avec la CARSAT. Donc, on va monter des ateliers tablettes. Donc, on a une trentaine de seniors à adresser là jusqu'au mois de septembre 2023. Et puis, on va monter aussi des ateliers avec des adultes et des jeunes autour du coding avec des partenaires toulousains. Mais déjà, au mois de janvier, là, au février, on va faire une action avec Coding, donc sur les métiers du numérique, là, qui est financé par la région. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'enfants. Ouais. On va avoir des enfants en partir de 2023. Et ça, j'ai déjà pris contact avec l'inspection d'académie. Ouais. Donc ils sont évidemment ouverts et open. C'est-à-dire que là, par exemple, on va s'adresser aux tout jeunes. On va dire, elle est entre 8 ans et adolescents. Où on va monter ce qu'on appelle des coding goûtés. Et ils pourront venir avec leurs parents. Et on va déjà commencer à travailler l'apprentissage du code sous forme de langage très basique pour les jeunes, langage Scratch. Voilà. Et après, on pourra travailler aussi avec l'éducation nationale pour peut-être intervenir dans des collèges. Et voilà. Mais ça, c'est dans un second temps. Mais j'ai reçu, évidemment, en accompagnement individuel, des jeunes... on va dire de 18 à 25 ans, très habile avec le téléphone, mais incapable de finaliser un CV ou incapable d'envoyer un mail avec une pièce jointe. Voilà. Donc ça existe aussi. Et j'ai accompagné quelques jeunes, mais en individuel, quoi. Comme j'ai accompagné aussi des porteurs de projets qui étaient bloqués, par exemple, dans leur site web. À un moment donné, ils font leur site web tout seuls, ils n'y arrivent pas, donc... voilà, j'ai pu accompagner aussi 2-3 porteurs de projets pour les aider. Voilà. Donc on adresse vraiment des publics très divers, des associations, des entreprises, des particuliers, des gens à la retraite, des gens plus jeunes, des gens salariés. On essaye de répondre à toutes les demandes et de monter des partenaires RIA, avec des acteurs très différents. Il y a un très grand travail aujourd'hui. Et comme le numérique va de plus en plus rapidement et évolue de plus en plus rapidement, si les personnes n'ont pas la capacité de rester en veille, de s'auto-former, en fait, aujourd'hui, je peux faire un atelier sur quelque chose et ce quelque chose ne va peut-être plus exister dans 3 ans. Et si la personne a l'habitude de ce quelque chose et n'a pas appris à s'auto-former... Donc pour moi, en fait, quand on est médiateur numérique... On n'est pas là dans l'action de dire « Bonjour mesdames et messieurs, voilà ce logiciel, c'est ici qu'il faut cliquer, c'est ici qu'il faut cliquer. » Il faut aussi apprendre, on le fait évidemment. Et rechercher l'autonomie, c'est donner cette envie, c'est planter cette petite graine chez la personne pour que la personne aille elle-même faire des recherches. Et tout. Et donc pour faire des recherches, pour se mettre à jour, tout ça, il faut savoir faire des bonnes recherches sur Internet. Parce qu'il y a des opérateurs de recherche, on peut perdre moins de temps pour faire des recherches. Enfin, voilà. Et tout ça, si on ne nous l'apprend pas, on ne le sait pas. Et du coup, c'est ça là aussi la médiation numérique, c'est transmettre cette envie de rester un petit peu accroché au wagon. Et je pense qu'une fois qu'on a dépassé les préjugés qu'on peut avoir sur « j'y arriverai pas »,« je suis nul », mais c'est parce que ça, je l'entends H24, quoi. Je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, machin, tout ça. En fait, non. Quand, au bout d'un atelier, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, mais en fait, maintenant, tout s'éclaire, je comprends. » Voilà, c'est pas grave. Là, on a mis un pas en avant. Moi, j'ai des personnes depuis... on a commencé les ateliers ici à Saint-Hippolyte-du-Fort en février 2022. Donc, c'est très récent. J'ai des personnes qui sont depuis février 2022 avec moi. Et en fait, le but, c'est vraiment de partir d'un point A et d'aller jusqu'à la lettre Z. Et le jour où cette personne me dira « Aïe, je me sens autonome et suffisamment, je quitte l'atelier », bingo, on a gagné. Je préfère être dans cette démarche d'accompagnement au long cours plutôt que de faire des ateliers. Alors aujourd'hui, je vous apprends à cliquer sur le bouton rouge et demain, je vous apprendrai à cliquer sur le bouton vert. Moi, je préfère faire un apprentissage avec des fondations solides, puis de monter petit à petit, et de revoir aussi, parce que ça, c'est très important. Surtout quand on a un public... parfois, j'ai des groupes où la moyenne d'âge, c'est quand même 75-80. J'allais dire, mon apprenant le plus âgé a 86 ans.
Moi, c'est très simple, hein, c'est que j'arrivais à manipuler l'ordinateur, mais toutes les leçons que nous a fait Cyril, par exemple, sur la sécurité et tout, c'est sûr qu'on avait des lacunes importantes, quoi. Donc c'est nécessaire de venir compléter notre manipulation de l'outil informatique, quoi. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de service public, donc l'ordinateur est une chose absolument utile, quoi, nécessaire.
Arriver à maîtriser un petit peu la communication administrative sur le net et puis la sécurité essentiellement. C'est ce qui m'a motivée en priorité. Voilà. Connaître toutes les astuces et au moins maîtriser les combines que Cyril nous a données. Je ne maîtrise pas encore suffisamment à mon goût.
Moi, ce n'est pas ce que je crains le plus parce que je faisais quand même des commandes sur Internet. Je me suis fait avoir 3 fois. Mais justement, je viens parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où il faut tout faire par ordinateur, que ce soit pour la carte de sécurité sociale, pour les impôts, pour la banque. Bon, maintenant, on est devant une machine et il faut savoir la manipuler, la comprendre. Ce n'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, grâce à Cyril et aux cours que la mairie nous propose, je trouve que... Ça fait longtemps d'ailleurs que je demandais à faire des cours. Bon, en plus, on est à un âge où on a plus de mal peut-être que les jeunes, parce que c'est toujours pas évident de rentrer dans le monde de l'ordi. Tout est en anglais. Voilà, enfin, moi j'ai 70 ans et franchement, j'essaye de m'adapter. Après, on oublie aussi, hein, parce qu'il faut pratiquer. pour pas oublier. Et c'est peut-être là où je pêcherai, parce que j'oublie. Alors, sur le coup, ça va, j'ai bien compris. Il faut noter, il faut se rappeler et pratiquer. Et on ne pratique peut-être pas assez. Vous comprenez ? Alors, où c'est que tu as appuyé ?
La génération Internet, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on commence à apprendre à un certain âge, tandis qu'eux, ils sont nés avec Internet. Donc, c'est le seul moyen qui reste pour communiquer dans cette société d'aujourd'hui. Et il faut s'y mettre. C'est presque une obligation. Comme elle a dit Odile, pour toute déclaration, les formulaires à remplir, il faut le faire sur l'ordi. Et donc, on n'a pas le choix.
L'association Solidarnet, sur le boulevard Talabo à Alès, a depuis longtemps engagé le combat de la lutte contre l'illectronisme. Armée d'une équipe compétente, solidaire et complémentaire, son attitude exemplaire durant la crise sanitaire a fait apparaître des failles importantes. Souvent, la fracture numérique révèle des problématiques liées à l'humanisme et au soutien des personnes en grande difficulté. Une équipe formidablement formée et à l'écoute répond fréquemment à des besoins qui dépassent même leur cœur de métier. Mais pas question de lâcher, car même si Sébastien Lasserre, le directeur de cette structure si chère au cœur de ses usagers, n'a de cesse de remettre en question le sens de son travail, ses objectifs et son futur, il pose la vraie question, comment ne pas jeter l'accompagnement social avec l'eau du numérique ?
Alors Solidarnet, c'est une association qui est visionnaire au fond, puisqu'elle a été créée en 2002, il y a 20 ans, sur l'idée que les structures sociales et médico-sociales du bassin alésien allaient avoir du mal à passer le cap de l'informatisation de la société. À l'époque, on disait qu'elles allaient avoir du mal à s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, il y a un regroupement d'associations du secteur social, médico-social et de l'insertion pour se dire on va s'entraider à s'intéresser aux ordinateurs, aux modems, à Internet, etc., etc. Et en fait, au fond, ils avaient déjà dans l'idée qu'il allait y avoir une transition numérique, même si ce n'était pas avec ces mots-là. Et puis, au fur et à mesure des années, l'association aurait repéré en fait des usagers du social et du médico-social, enfin des gens qui étaient en situation de difficulté sociale, et s'est bien rendu compte que la numérisation de la société posait un problème. Et effectivement, on a été mis sur le devant de la scène pendant le premier confinement où on s'est aperçu enfin à quoi on servait, quoi. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la société, elle se numérise dans tous les actes, quasiment aujourd'hui, de la vie quotidienne. Donc, finalement, autant avant, on avait l'impression qu'il y avait une cible de gens qui étaient éloignés du numérique pour des causes soit de très grandes difficultés sociales, soit pour des causes d'être trop vieux, par exemple. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, non. Ce fameux électronisme dont on parle, en fait, c'est une cible mouvante. Et petit à petit, on va avoir des gens qui n'étaient pas concernés par la fracture numérique et qui vont tomber dedans. Et ça, c'est très intéressant de l'observer. D'ailleurs, pendant le confinement, ceux qui ont pris conscience de la fracture numérique, souvent, c'était des cadres moyens. Qui était très intégré dans la société, qui avait du boulot, le couple avait du travail et les deux enfants étaient bons à l'école. Et ils se sont retrouvés en situation de fracture numérique parce que les deux devaient travailler et les deux enfants devaient être en visio. Il y avait un ordinateur pour toute la famille. Et donc ça a été une grosse prise de conscience, y compris au niveau des décideurs, parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation de fracture numérique alors qu'ils pensaient ne jamais s'y trouver, puisqu'ils pensaient maîtriser les usages du numérique. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut lever aussi plein de lieux communs sur cette question de la fracture numérique. Je vais donner plusieurs exemples. Nous, on a des actions en direction de la jeunesse. Et on se rend compte qu'en fait, ces jeunes-là sont hyper valorisés au niveau de leur connaissance, de leur rapport au numérique. En gros, ils ont des ampoules aux doigts à force de scroller sur leur téléphone portable. Or, ils sont pour une grande partie en situation de fracture. Ils ne savent pas différencier le vrai du faux sur une information qui va tourner sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas vérifier des sources. S'ils ont besoin du numérique pour faire des demandes de stage ou postuler à une formation, on se rend compte qu'ils sont complètement paumés parce qu'ils n'arrivent pas à fabriquer leur CV avec leur téléphone portable. Ils ne savent pas écrire un mail. Et en fait, ces gamins-là qui sont survalorisés par leurs aînés, qui leur disent ah, « vous êtes nés dedans et vous savez faire », en fait, c'est faux. Donc on a pas mal d'actions en direction de la jeunesse là-dessus. C'est-à-dire, en gros, c'est dire le numérique, c'est pas que YouTube et Instagram et Snapchat. Le numérique, c'est quelque chose qui va soit t'aider à trouver du boulot, soit t'aider à trouver un stage, mais aussi qui va t'aider peut-être à faire vivre tes passions, hein, tout simplement. Et on voit aussi... on voit le bon côté des choses. Alors, on n'est pas uniquement dans attention aux fausses informations, attention au harcèlement. On est aussi sur tu as des passions, tu as des moteurs. Eh ben, le numérique peut t'aider à les poursuivre ou à les approfondir. Ça, c'est pour l'histoire des jeunes. Bon, les seniors, évidemment, qui sont en difficulté parce qu'on se rend compte. Nous, on fait un parallèle très fort à Solidarnet avec la question de l'isolement. Les seniors isolés, plus la société se numérise, et ils sont plus ils sont en situation d'isolement. Donc là, avec eux, on ne va pas travailler sur les volets administratifs ou sur les volets du droit. On va beaucoup travailler sur recréer du lien, retrouver des personnes, retrouver des lieux de son enfance, écrire ses mémoires, voilà, ce genre de choses, et accéder à des loisirs. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes âgées qui s'interdisent maintenant de prendre le train, parce que pour prendre un billet de train, bah, c'est difficile, de plus en plus difficile au guichet, ou d'aller visiter un musée. Pour le petit exemple, j'étais à Barcelone la semaine dernière, la Sagrada Familia, bah, si on n'a pas pris le billet par internet, on ne peut plus l'acheter sur site.
On l'appelle explorateur des fichiers. Une fois qu'on ouvre ça, on aura ce petit volet ici à gauche qui s'appelle navigateur. Et là, en fait, on a un endroit exprès que pour les dossiers d'usagers et des exercices qu'ils réalisent. Du coup, on clique là-dessus, on aura toutes les personnes. Et du coup, c'est classé par ordre alphabétique. Et là, on va y aller, par exemple, sur votre nom. On commence par T. Voilà. Et là, on pourra l'ouvrir. Et on aura les exercices que vous avez enregistrés précédemment. Voilà. Du coup, là, ça, c'est juste pour arriver, pour savoir qu'est-ce que vous avez réalisé comme dernier exercice. Après, on a ici le logiciel qui va nous permettre de faire ces exercices-là. Ici, en bas. Vous le voyez ? Voilà. Et là, on clique. Ça s'ouvre. Et ensuite, on a ici nouveau document vierge. Et là, on pourra écrire comme ce que vous avez fait avant. Du coup, vous pouvez commencer.
Moi, c'est Reda Boutichi. Je suis à Solidarnet. Je réalise des ateliers mobiles à l'extérieur de Solidarnet. C'est à peu près tout ce qu'on réalise ici à Solidarnet, sauf qu'on va vers d'autres associations, au centre social, à l'extérieur. Et du coup, moi, j'anime des groupes de personnes, un peu tous les âges, mais on a certaines catégories pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ont plus de 60 ans. J'en ai eu quelques jeunes qui sont éloignés et qui n'ont pas la possibilité de transport ou se déplacer vers Solidarnet. Du coup, ils sont les bienvenus parmi le groupe que j'anime. Généralement, le besoin, c'est tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est apprentissage de l'outil, d'avoir moins peur en utilisant l'outil et de ne pas commettre des erreurs sur l'ordinateur. Ou ça peut être un peu plus poussé, genre savoir comment publier sur Facebook ou comment trouver des souvenirs, comment faire des recherches sur Internet, tout type de démarches. Tout d'abord, avant de commencer les cours, ces cours-là, je leur donne un genre de questionnaire avec quelques questions simples, faciles à réaliser, faciles à répondre. Et après, je recueille toutes ces données et je sais à peu près comment c'est le niveau de ce groupe. Ensuite, on a aussi, depuis quelques mois, on a aussi un outil qui s'appelle les briquettes, qu'on peut réaliser le programme avec le groupe. y a des démarches, il y a des choses comme ça, pour, exemple, comment utiliser le site de la CAF et tout ça. Du coup, on se base sur les briquettes, on fait le programme avec les gens, et du coup, à ce moment-là, quand on a réalisé le programme, on pourra le travailler tous ensemble. Et du coup, là, ils ont choisi vraiment ce qu'ils avaient besoin à réaliser, ce qu'ils avaient besoin à apprendre. Alors, moi, en fait, je viens de l'Espagne. Et du coup, mes études, je les ai réalisées en Espagne. J'ai fait un bac pro en Espagne. Et du coup, avec ce bac pro, ils nous ont formés sur plusieurs catégories dans l'informatique. Et un de ces catégories, c'était aussi pour apprendre, pour former les gens. Voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai appris tout ce qu'est l'informatique et comment apprendre aux gens. Et aussi, je voulais aussi réaliser quelque chose qui était un peu rapproché aux gens, d'apprendre, de transmettre tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris aux autres. Allez, j'atterris, j'ai fait plusieurs stages. J'ai intégré aussi certaines formations qui me permettent de comprendre et apprendre un peu le français. Du coup, une fois que j'ai fait tout ça, je fais des stages dans des associations. En 2014, j'ai connu l'association Solidarnet. J'ai fait un stage. Ensuite, j'ai fait un service civique. Après, je suis parti ailleurs à travailler. Je suis revenu et ils m'ont proposé un petit contrat. Je suis revenu et voilà.
Structurellement, Solidarnet, c'est d'abord un lieu bien repéré à côté de la gare, en plein centre-ville, accessible, surtout y compris pour les personnes à situation de mobilité réduite, où on va pouvoir frapper, entrer, exposer son problème qui est lié au numérique. On ne va pas répondre forcément à tout. On pourra aussi orienter, guider, mais du moins écouter et accueillir la demande. Ça, c'est le côté important. S'assurer qu'elle est traitée si ce n'est pas nous qui le faisons. Donc là, on a des ordis à libre disposition pour des gens qui sont plus ou moins autonomes et qui ont juste un problème d'accès. Mais en fait, la fracture numérique, c'est aussi beaucoup un problème d'usage. C'est pas parce qu'on a les outils qu'on sait les utiliser. Et donc là, on va avoir à disposition des médiateurs numériques. On a une équipe de 7 médiateurs numériques qui, au quotidien, vont accueillir les personnes, soit sur rendez-vous, soit au cas par cas, quand c'est possible, dans la mesure de nos disponibilités, pour accompagner des personnes pour qui le numérique va constituer un problème dans leur démarche au quotidien. Donc ça, c'est du droit social, hein, c'est-à-dire je dois toucher mes allocations familiales, il faut que ça passe par le numérique, ou je dois déclarer mes impôts, mais ça va être aussi, comme je disais tout à l'heure, prendre un billet de train, prendre un billet pour le musée, prendre un bus, calculer un itinéraire, etc., etc. Alors ça, c'est à Solidarnet et on travaille beaucoup hors les murs. On a monté une dizaine de partenariats avec des associations qui sont très implantées dans certains quartiers, soit très implantées dans les quartiers populaires de la politique de la ville, soit implantées en milieu rural. Donc il y a des centres sociaux avec qui on bosse dans des fonds de vallée où là, l'idée, c'est on arrive chez eux, on monte avec eux un atelier de médiation numérique pour leur public. Donc ils connaissent leur public, ils assurent la communication de l'information. Et nous, on garantit une présence régulière, c'est-à-dire une fois par semaine, une demi-journée. Et on va tourner comme ça toute la semaine dans une dizaine d'endroits du grand bassin alésien. Et là, l'idée, c'est d'aller faire un voyage avec un groupe d'usagers avec lequel on va co-construire un programme. L'animateur et les usagers, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qui va se passer pendant ces 10 séances en fonction d'une première séance de collecte des besoins. Et on va viser une autonomie progressive sur les problématiques qu'ils ont mises en avant eux et pas le médiateur qui pense ce qui est bon pour les gens. On a un gros financement européen, du Fonds social européen, qui est très axé sur rapprocher les gens de l'emploi lorsque le numérique pose un problème à l'employabilité. Donc ça va aller d'une personne qui même ne sait pas s'actualiser à Pôle emploi chaque mois par le biais du numérique. Ça va être aussi aider les gens à construire un CV, ça va être aider les gens à faire des recherches d'emploi, cibler des agences d'intérim, bref, tout ce qui va rapprocher la personne d'une employabilité ou d'un emploi, ou d'une formation, enfin, qui va lui permettre de se rapprocher in fine de l'emploi. Et ça, c'est un programme qui est très calé, européen, donc très exigeant et très rigoureux administrativement. Donc ça se fait uniquement sur orientation d'un conseiller Pôle emploi ou d'une assistante sociale ou d'un conseiller emploi formation qui va dire là, je vois que la personne a des difficultés d'employabilité liées au numérique, je l'oriente à Solidarnet pour un temps donné. Et nous, on rend compte de l'accompagnement qu'on fait avec chacune des personnes. Ça concerne plus de 300 personnes par an. Après, sur toutes nos actions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ben, la politique de la ville, donc là, c'est une alliance État, région, ville, département. Voilà, donc, ces quatre institutions qui cofinancent en fait les actions de Solidarnet dans les quartiers populaires. Et une petite part d'autofinancement qui représente moins de 10% de notre budget, mais où qu'on compte développer, ça permet d'équilibrer aussi souvent des actions parce que en fait, je pense qu'il y a beaucoup à innover et l'innovation a souvent c'est des essais sans que personne nous soutienne. Et ça, nous, on continuera à le faire en plein de petits partenariats, par exemple avec des associations qui s'occupent de personnes qui sont handicapées mentales et pour, avec lesquelles on co-anime des ateliers. Et bon, là, bien sûr, il n'y a pas de crédit là-dessus, mais nous, on fonce quand même sur ce genre de petits trucs. Ou bosser avec dans le monde des migrants, qui n'est pas notre secteur du tout, mais où on sait bien qu'il y a un très gros enjeu maintenant sur numérique et migration. Et on lance des ballons d'essai comme ça, et ça on l'équilibre avec des actions de formation, où on est agréé Calliope, labellisé Calliope. Et donc on va avoir un petit secteur où on va soit former des travailleurs sociaux qui sont en situation de difficulté avec le numérique et là pour leur poste ils ont besoin de monter un peu en compétences parce que les métiers changent et se numérisent aussi, soit avec des personnes qui utilisent leur compte personnel de formation pour pouvoir monter en compétences et espérer retrouver du travail par eux-mêmes.
Là, on est en train de faire une plaquette pour madame qui a démarré son activité de sophrologue. Et donc là, on fait une plaquette commerciale, en fait, après avoir fait d'autres supports. Donc on a fait son site, on a fait sa carte de visite, son identité visuelle. On développe tous les supports qui lui permettront un peu de commencer à communiquer sur son activité. Et c'est un des outils dont elle va avoir besoin pour communiquer autour de son activité, avec les réseaux sociaux. Alors là, le support lui-même, on le crée pour elle. Par contre, l'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux, tout ça, il faut qu'elle soit autonome avec. En fait, il y a certains outils qu'elle va pouvoir faire elle-même, par exemple avec Canva, pour communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple des petits visuels sur lesquels elle peut écrire des choses pour un peu mettre en valeur son contenu. Et là, par contre, ça, on le fait ensemble parce que ça nécessite des outils un peu plus poussés et des connaissances un peu plus avancées. Qui serait un peu trop ambitieuse à développer, on va dire.
Pour moi, c'est pas du tout zen. Heureusement qu'il est là, c'est mon calmant là, parce que j'aurais mis au moins un mois à faire la moitié de ce qu'il a fait, et en m'énervant, en cassant peut-être mes outils numériques. Donc non, c'est pas zen du tout. La sophrologie, elle peut aider peut-être à accompagner des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, mais là-dessus, je crois que même moi, je suis irrattrapable. Mais si j'ai des questions, au fil de l'eau, je les pose. Et puis, Théo, il est toujours là pour répondre à mes besoins. De manière générale, quand même, j'ai besoin d'être accompagnée. Toujours besoin. Ce pourquoi j'aurais de l'autonomie, c'est peut-être pour la gestion de mon site. Là, j'ai été accompagnée par Hakim. Et du coup, là, maintenant, je peux aller modifier le contenu. Et voilà, je suis un petit peu plus autonome. Puis, je suis un peu tatillon déjà. J'ai pas d'idée. Je l'aide pas beaucoup, le pauvre. Et une fois qu'il a terminé, je lui dis, mais il y a ça qu'on pourrait faire mieux. Voilà. Mais bon, il est quand même très à l'écoute. Donc, on va y arriver aujourd'hui, j'espère.
En fait, nous, là, on a un gros enjeu de développement, mais qui dépasse largement Solidarnet. Depuis un an, en fait, je travaille avec une dizaine d'associations gardoises pour créer un réseau d'inclusion numérique. Donc on a lancé l'affaire il y a un peu plus d'un an maintenant. On a créé le RING, le réseau d'inclusion numérique gardois, où là l'idée c'est on s'associe à une dizaine de structures dans plusieurs buts. Le premier c'est il y a des projets qu'on ne peut pas réaliser seul. Et donc là on a touché un financement de l'État, là, mais de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour mener à bien 4 projets sur le territoire gardois en direction de 4 publics différents. Donc il y a les TPE, qu'on oublie, les très petites entreprises qu'on oublie souvent, et qui sont dans des difficultés aussi liées à l'éloignement du numérique. Donc on a un projet en direction de ce public-là. On a un second projet qui va toucher les associations aussi, qui sont elles aussi dans des difficultés liées au numérique, surtout les associations qui sont constituées que de bénévoles. Maintenant, un dossier de subvention, ça ne se fait plus en papier. Il y a des démarches. La création d'associations se fait par le biais d'une démarche numérique. Bref, dans ce projet-là, on va plutôt viser le partage des bonnes pratiques. Il y a des associations qui sont très inventives avec le numérique et l'idée, c'est de voir comment on peut promouvoir leur usage du numérique et faire des espèces de tutoriels pour que les autres associations pourraient s'emparer. Et puis on a une troisième action collective là où l'idée ça va être de sortir les professionnels de la médiation numérique de l'isolement quand c'est le cas. Parce qu'en fait c'est un nouveau métier et il y a certaines structures où il y a un médiateur numérique qui est très isolé, qui va être souvent confronté à une foule de demandes. Et l'idée c'est de monter une sorte de compagnonnage où ils puissent faire le tour des principales associations qui font de l'inclusion numérique dans le Gard pour partager les pratiques, se former, appeler SOS s'il y a besoin. Voilà. Et puis un quatrième projet qui est une tentative de mise en circulation d'un outil d'animation qui est encore au stade expérimental, dont je parlais tout à l'heure, qui permet de co-construire un programme avec des usagers.
Je suis Florence Novak, je connais l'association Solidarnet depuis mars-avril 2022 par le biais de ma conseillère Pôle emploi. Cette association m'a aidée dans ma reconversion professionnelle. J'étais vraiment plutôt une manuelle et l'ordinateur, c'était vraiment un outil que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais les bases forcément, mais moi j'étais coiffeuse, donc plutôt professionnelle et prestation de service. Du coup, quand je me suis reconvertie en tant que professionnelle de la petite enfance, j'ai dû évoluer d'assistante maternelle, devenir formatrice pour adultes. Et là, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes au niveau informatique. Solidarnet m'a donc permis d'aider dans cette nouvelle projection professionnelle. Et grâce à l'association, j'ai pu rebondir et passer de nouveaux diplômes. C'était vraiment, au démarrage, pouvoir postuler. Donc c'était Word, Excel, donc c'était surtout ça. Et puis au fur et à mesure que mon projet a mûri, en parallèle, j'ai pu évoluer. Et ça m'a permis de faire du PowerPoint et de passer une formation à distance. Mais sans Solidarnet, je n'aurais pas été capable de monter mon projet, mon nouveau projet. Aujourd'hui, je travaille pour le Greta, donc je suis formatrice pour adultes. Donc je forme les futures assistantes maternelles, les CAP AEPE, et j'ai encore d'autres projets. Donc du coup, je vais encore continuer avec Solidarnet parce que j'ai également une association qui est dans la petite enfance et qui cible les petites enfances et la famille. Et Solidarnet va encore m'aider même à monter mon logo, enfin à me faire connaître et peut-être même faire un partenariat avec eux. Ça fait partie de mes projets. J'utilise ce que j'ai appris avec Solidarnet pour transmettre à mes stagiaires. Donc pour moi, c'est super. Sans Solidarnet, je ne serais pas arrivée où j'en suis. Ça, c'est une opportunité, mais vraiment, merci ce système qui, je ne connaissais pas trop, hein, parce que moi, j'étais artisan pendant 25 ans, donc je n'étais pas salariée, je ne bénéficiais pas de tout ça. J'ai découvert, et c'est trop bien. Cette association, ils sont tellement bienveillants, ils sont tous des compétences diverses, et c'est moi, je me suis nourrie de chacun d'eux et j'ai évolué, appris et j'ai encore plein de choses à apprendre avec eux. Moi, j'avais des besoins, mais je me suis rendu compte aussi, même dans les gens qui viennent à l'association, qu'il y a énormément de besoins et ils sont tous ici, en tout cas, à l'écoute de chaque personne. Et c'est ça qui est formidable. Ça, c'est vraiment, ils s'adaptent au public.
Il y a une très grosse question sur l'avenir, là, plusieurs d'ailleurs. La première, c'est que effectivement, on n'est pas au bout de la numérisation. Et à l'évidence, on a encore du boulot pour plusieurs années. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, derrière les choses qui sont numérisées, il y a des actes qui sont des actes qui existaient avant. Concrètement, faire un dossier de retraite, c'est pas parce que l'acte est numérisé qu'on constitue pas derrière un vrai dossier de retraite comme avant. Quand on fait une demande de logement, on continue à faire sa demande de logement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs incertitudes sur l'avenir. La première, c'est comment va se structurer l'écosystème de l'inclusion numérique. C'est très flou. Aujourd'hui, on a une grande liberté, c'est assez chaotique, mais en même temps, c'est normal, c'est des nouveaux champs de la vie sociale. Et donc, on est sur des moments extrêmement intéressants de dire, bon, comment dans le Gard, on fabrique le Ring, le réseau d'inclusion numérique Gardois, on a une nouvelle chance de se structurer, de partager, de plus être sur les anciennes fractures. Toi, tu fais du social, toi, tu fais du médico-social, toi, tu fais du sanitaire. L'inclusion numérique touche à tous les actes de la vie courante. Et donc, on a une sorte de nouveau départ, de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats, et tout se structure en ce moment. À ce titre, par exemple, je signale qu'il y a ce qu'on appelle les hubs, qui sont des instances au niveau régional, c'est-à-dire au niveau territoire, région, pas l'institution, où on commence à repérer une espèce de tête de réseau comme ça, qui vont essayer de structurer des acteurs locaux, des correspondants par département, etc. Bref, on est dans une nouvelle réorganisation de l'aide aux gens, voilà, en ce qui concerne le champ du numérique. Ça, c'est la première des choses. Et puis la seconde, j'en parlais pour l'histoire des actes qui se cachent derrière l'acte numérique, il y a une bascule qui n'est pas encore faite et dont on ne sait pas de quel côté elle va tirer, c'est que, est-ce qu'un médiateur numérique, c'est un métier demain ? Et auquel cas, il va falloir qu'il intègre tout le champ de la vie sociale. Je suis médiateur numérique, mais je sais faire une demande d'aide au logement. Je suis médiateur numérique, mais je sais faire une demande d'asile. Je suis médiateur numérique, mais je fais un dossier retraite. Je suis médiateur numérique, mais je suis un spécialiste des impôts et je vais vous aider à faire votre déclaration, etc. etc. Ou alors, et c'est pas vers là que ça semble aller, et pour autant, la logique le voudrait, est-ce que ce n'est pas l'ensemble des acteurs du monde social et médico-social d'intégrer cette dimension de médiation numérique ? Et là, aujourd'hui, ce n'est pas tranché. D'ailleurs, ça va plutôt dans le premier sens, c'est-à-dire qu'on crée des postes de conseiller numérique France Service, 4000 en France. On crée des maisons France Service. On crée des, en fait, le numérique est presque mis avant la démarche qu'elle cache. Voilà. Et donc, moi, j'ai une grosse question, c'est comment ne pas jeter l'accompagnement social avec l'eau du numérique.
C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.